La prison, cette structure-là, ces murs, ça fait peur, c'est froid. Quand on se limite simplement à ce qu'on voit, on se sent enfermé. Mais quand on regarde avec l'œil du cœur, on voit que l'esprit peut aller au-delà de ça. Et l'esprit peut être libre à partir du moment où il connaît son Seigneur.
Les données statistiques de la population carcérale bruxelloise parlent d'elles-mêmes. Tchèque à la tête de l'emploi. Un homme, la trentaine, musulman et d'origine étrangère, il est ce qu'on pourrait accidentellement appeler dans la capitale un détenu moyen. Pourtant, sa chaleur et son sourire contrastent tellement avec l'idée première que l'on a d'un détenu.
Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Tombé en prison pour escroquerie informatique, sa richesse, aujourd'hui, c'est dans l'islam qu'il la cherche. Il s'est rangé, comme on dit, entre les quatre murs d'une cellule de la prison de Saint-Gilles. Et comme lui, beaucoup d'autres adhèrent à la religion au milieu carcéral. Normal, pense-t-on. La religion n'est-elle pas l'opium d'un peuple assujetti? Pendant les guerres, les églises ne se remplissent-elles pas? Le désespoir ne conduit-il pas l'homme à croire? Eh bien, dans la vraie vie, les choses sont parfois plus complexes. Qui sont ces hommes sans foi ni loi devenus pieux? Et si dans certains cas, la religion n'était plus seulement une fin, mais plus que jamais un moyen? Pour le comprendre, nous avons suivi trois hommes ayant purgé une peine de prison. Tchèque le musulman, Blaise un catholique et Michael un protestant. Trois hommes aux profils différents qui ont pour dénominateur commun la prison et la religion. Par le biais de leurs témoignages ainsi que celui d'autres acteurs de terrain, nous essayerons de comprendre un phénomène aussi complexe que l'âme humaine. Priver un homme de sa liberté est sans doute l'un des pires châtiments que l'on puisse lui infliger. Dans la logique foucauldienne, la prison a été conçue pour discipliner les corps en vue de rendre l'esprit plus moral. Souvent, cet espace clos est le lieu de bien de tourments. Promiscuité, manque d'hygiène, perte d'autonomie et d'identité, violence et suicide ne sont que quelques mots-clés que l'on peut coller sur cet endroit. Dans cette jungle, chacun survit et trouve un peu de réconfort comme il peut. Et durant cet épisode, la religion est souvent une échappatoire. Comme pour Blaise, ce catholique d'origine congolaise. Il est multirécidiviste, ancien membre des bandes urbaines de Bruxelles d'origine subsaharienne.
Ah, la prison rend fou en fait déjà. La prison rend fou, la prison c'est les ténèbres. Hein. Parce que la prison c'est... Il faut être dedans pour voir. Parce qu'à un moment tu vas commencer à voir des choses où tu te dis ben, il faut que je me mette dans la prière. Parce que la prison, il y a des gens qui se suicident, il y a des trucs bizarres qui se passent en prison. Donc à un moment ou l'autre, faudra choisir. Hein. Donc quand tu te sens d'abandonner, délaisser de tout, ben, tu choisis. Hein. Tu choisis déjà ça, tu t'accroches à ta Bible, parce qu'après ça, dedans, c'est l'ami que tu auras, c'est tes amis des cellules, et sinon c'est ton Dieu.
Tout comme ce catholique de 28 ans, le seul conseiller islamique de la prison de Forêt, l'imam Fatala, est catégorique.
Chacun de nous, une fois, il est dans certaines difficultés, il cherche à s'en sortir, il cherche des solutions, et parmi les solutions qu'il trouve sur son chemin, c'est la religion. Puisqu'ils sont des musulmans, la première référence à laquelle il réfère dans son problème, c'est Allah, le bon Dieu.
Pour Tchèque lui-même, la prière a eu un effet anxiolytique.
La prière, ça m'a apporté une quiétude par rapport à mes angoisses, la souffrance, le stress, les doutes. Et ça m'a apporté aussi une assurance, à savoir que j'étais pas abandonné de tout le monde, qu'il y avait un Dieu qui me soutenait au-delà des apparences.
Pour Jean-Marie Jaspard, professeur émérite de la psychologie des religions, la croyance en une instance supérieure répond aux mécanismes infantiles théorisés par Freud.
En période de crise, on crie au secours. Depuis qu'on est enfant, on crie au secours vers ceux qui sont des protecteurs possibles ou qui vont nous libérer de la peur qu'on a. Dans toutes les religions, en tout cas dans le christianisme, Dieu est considéré comme celui qui sauve.
Et cet appel à l'aide se fait d'autant plus pressant en début de détention, comme l'affirme Claude, surveillant chef à la prison de Forêt depuis 8 ans.
En règle générale, c'est aux premières heures d'une incarcération. Dès qu'une personne est écrouée dans une prison, la peur déjà du milieu, la personne n'a d'autre choix que de regarder vers Dieu, si on peut le dire, croyant qu'il y a un miracle qui peut venir d'une minute à l'autre pour le sortir de cette situation. Parce qu'il ne faut pas oublier que la prison, même si on refuse de le dire, mais c'est l'enfer. L'enfermement, la privation de liberté, ce n'est pas une chose facile.
Une détresse telle qu'elle est difficilement imaginable, même pour Harold Nesbitt, pasteur et aumônier depuis presque 8 ans.
Je dirais que ceux qui sont en préventif souffrent, sont plus en crise que ceux qui sont condamnés, qui sont casés. Il y a une souffrance que moi je n'ai jamais vraiment saisie, mais que je peux comprendre intellectuellement, de ne pas savoir la fin. Il y a une date qui vient et donc s'ils ont une date, ça c'est déjà bien. Mais s'il n'y a pas de date, si leur dossier n'est pas clôturé, s'ils doivent entendre, cela c'est très difficile. Et j'ai entendu des détenus dire qu'ils auraient préféré, une plus longue peine que de devoir attendre.
Un état psychologique que Blaise, lui, a vécu de l'intérieur.
Les jours où on devait, après mon passage au palais de justice, en fait, c'était voir si ça passait ou ça cassait. Ça veut dire dans le sens où tu rentres en prison, tu vas au palais de justice, après ils te disent tu retournes en prison, la décision viendra. Donc quand tu rentres, tu ne sais pas si tu vas sortir ou pas ces jours-là. Donc là, tu te mets à taper contre le mur, à parler à Dieu, à parler tout seul, tu vois.
Blaise a su tenir le coup, mais ce n'est pas le cas pour tous les prisonniers. Chacun vit la détention à sa manière, comme l'affirme l'abbé et aumônier catholique alentin Xavier Lambrecht.
L'état psychologique des détenus, bon, il y en a toutes les sortes. Hein. Il y en a pour qui être en prison, je ne veux pas dire que ce n'est rien, parce que ce n'est jamais une partie de plaisir, mais ce n'est pas vraiment un drame au plus profond de soi. Et à l'autre bout de l'échelle, je veux dire, il y en a pour qui c'est insupportable de vivre en prison.
Michel Thibault est psychanalyste et criminologue. Il exerce en milieu pénitentiaire. Pour lui, c'est sûr, la prison a des effets destructeurs.
Les conditions de vie carcérale sont absolument épouvantables. C'est d'une déshumanisation systématique. Alors que ça devrait être seulement le lieu de la privation de liberté, c'est un lieu de privation de tout. C'est une privation d'autonomie. Vous devrez frapper à la porte pour qu'on vienne vous ouvrir pour aller au cours. Et si le gardien n'a pas envie de vous ouvrir, vous n'allez pas au cours. Vous vivez dans une incertitude permanente parce que vous ne savez jamais quand une autorisation, par exemple, après un certain temps pour sortir de prison, si elle va arriver, si elle ne va pas arriver. Et donc, ces gens vivent dans une espèce d'inquiétude permanente et de non-liberté, mais qui est non seulement une privation de liberté physique, mais une privation de liberté intellectuelle aussi. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas lire ce qu'ils veulent, ils ne peuvent pas recevoir les nouvelles qu'ils veulent sans que ce soit censuré, enfin, etc. C'est toute une machine qui, finalement, écrabouille les gens, enfin, de façon inimaginable. Bon, les gens que j'ai vus après 5 ans, 10 ans de prison, enfin, sauf ceux qui résistent vraiment très fort et qui ont eu la chance d'avoir un suivi psychologique, sont quand même cassés.
Bien souvent, en matière de religion, cet effet ravageur du milieu carcéral peut donner lieu à des situations étonnantes.
Hein, que moi, quand je suis arrivé en prison, ici dehors, il était point de vue religion zéro. Quand on arrivait en prison, quand on a été à la messe une fois, et le mec, il est à fond. C'est lui qui gérait presque l'église. Les prières, les chants, tout ça, là, c'était lui, quoi. Et après, on nous dit qu'il était musulman. Une prochaine fois, quand il a été incarcéré, il s'est reconverti. Après, il est redevenu chrétien, donc lui, il est perdu.
Bien au-delà du plan spirituel, la prison occasionne souvent des dégâts considérables sur les détenus. Gérard de Coninck, professeur de criminologie et ancien directeur de deux prisons belges.
Et donc les dommages, c'est à la fois cette solitude, cette coupure de la société, l'éloignement de la famille, ça c'est un gros problème aussi. Et c'est cette castration sexuelle aussi de la femme subit tout. Hein. Moi je dis toujours que c'est la famille qui est la... Enfin, on dit que c'est des dommages collatéraux. Moi, je dis que c'est la famille autant que le détenu qui souffre et qui est puni. Et je pense que dans certaines dispositions réglementaires de la prison, la famille est réellement punie. On ne veut pas leur laisser, à certains détenus en tout cas, on ne veut pas laisser facilement des visites ou des communications téléphoniques, etc. Il y a toutes de petites choses qui permettent dans la vie concrète de punir la famille. Voilà, il y a beaucoup de choses d'autres.
Mais il arrive parfois, plus rarement, que les détenus tirent profit de leur séjour en prison. C'est en tout cas ce qu'affirme Tchèque, qui a purgé une peine de 4 ans à la maison d'arrêt de Saint-Gilles.
Pour moi, le fait que j'ai été en prison m'a rappelé que, d'une part, j'ai commis une erreur, parce que sinon, je n'aurais pas été. Je ne peux pas dire que j'étais blanc comme neige, non. J'ai certes joué un rôle, mais sans mesurer les dangers et les risques. D'autre part, je me suis dit, si je n'étais pas en prison, je n'aurais pas pris conscience des choses. J'aurais pas pris conscience de la gravité. Peut-être que j'aurais pu être tué, en fait, tu vois. Sur cette voie-là, en fréquentant des gens qu'il fallait pas et tout ça. Donc ça m'a rappelé à l'ordre, ça m'a rappelé que ce n'était pas ma voie.
En fait, la détention tchèque l'a plutôt vécu comme un châtiment divin.
Il y a des gens qui sont beaucoup plus conscients. Au jour le jour, ils savent que la vie, c'est un combat. La vie, c'est sacré. Et donc, qu'il faut faire attention à soi et aux autres aussi. Il faut pas faire du mal à ceux que tu aimes et éviter aussi la colère de Dieu. Parce que souvent, en tant que croyant, on pense que voilà, Dieu nous en veut. C'est pour cela qu'il nous a mis dans une situation pareille, afin de nous corriger. Donc, on apprend à cultiver l'amour vis-à-vis d'Allah et la crainte.
Michael est protestant. Libéré depuis février dernier, il a purgé une peine de 7 ans à Nivelles pour coups et blessures. Pour lui, l'épreuve n'était pas tellement la colère de Dieu, mais plutôt une manifestation de son amour.
On est là et on essaie de comprendre. Voilà pourquoi on a fait ça. Pas le comprendre, oui j'ai fait ça, je sais que je dois plus le faire, non. Comprendre pourquoi est-ce qu'on l'a réellement fait, en fait. Pourquoi est-ce qu'on est arrivé là. Et des fois, en fait, Ali, il nous a toujours fait comprendre que des fois, si on est là, c'est que c'est Dieu qui a prévu un passage par ici. Et que ça soit une fois, deux fois ou 10 fois, c'est peut-être pour essayer de faire comprendre quelque chose ou pour faire avancer.
La confiance peut être forte pendant l'épreuve, mais celle-ci peut s'estomper avec le temps, comme le raconte Cheikh.
Comme voilà, la nature humaine, on est des éternels insatisfaits. On veut les choses assez rapidement. Et souvent, dans ce genre d'environnement, on exige ce qu'on souhaite le plus rapidement, c'est la liberté, en fait. Et souvent, quand on prie Dieu, on lui demande voilà, de nous sortir de cet enfer-là. Mais quand les choses ne se font pas à la vitesse à laquelle nous le souhaitons, on commence à se détacher. D'autres se donnent à des activités illicites. Là-bas, au sein de la prison, il s'oublie en fait. Et voilà, c'est des cas qui se produisent là-bas. Beaucoup s'oublient aussi parce qu'à l'extérieur, ils ont tellement été durs, irrespectueux et ingrats envers leur famille que d'autres, ils ne reçoivent pas des visites et ça joue aussi sur leur mental. Ils se disent, voilà, la religion, quelque part, Dieu, il ne nous répond pas, mais notre famille aussi, on ne voit pas. Donc finalement, on s'en fout, quoi. On s'abandonne à la vie, on prend les choses comme elles viennent. En attendant, on s'occupe comme on peut, on deal, on fait des choses qui ne sont pas forcément correct.
Même constat pour Blaise.
On dit souvent les c'est qu'on demande à Satan, il nous le donne directement. Et ce qu'on demande à Dieu, ça prend du temps. Donc tu auras plus du mal à croire en la Bible parce que tout ce que tu demandes, c'est des choses qui ne viennent pas directement. Imagine tous ces gens qui prennent des 10 ans de prison, qui demandent qu'à Dieu être dehors demain, tu vois, je vais dire. Et après ça, ben, tu galères. Chaque jour, tu te réveilles, chaque jour, tu poses les mêmes questions, chaque jour, tu n'as pas de réponse. Il y a des gens qui peuvent avoir des réponses, mais si tu n'es pas à fond dans la Bible, si tu n'es pas à fond dans la religion, tu ne sais pas toi-même aussi décortiquer ou bien comment apercevoir les messages, comment les traduire, tu ne sais pas. On est là, abandonné de tout. C'est des gens qui nous gèrent comme des bêtes.
Pour Claude Le Gardien, l'abandon progressif est nettement perceptible chez certains détenus, même si ces derniers ne le montrent pas toujours.
Naturellement, au bout d'un certain moment, la personne qui s'est tournée vers la religion, espérant avoir quelque chose, se retourne de la religion parce que finalement, le Dieu qu'on a appelé à la rescousse pour un miracle, et une fois le miracle n'est pas arrivé, le gars il se retrouve condamné. Bah, il se dit à quoi ça sert finalement de croire en Dieu. Mais il y a quand même une nuance. Le rejet de la religion n'est pas souvent extériorisé. Ouais. Il est vraiment en la personne elle-même. Parce que la religion, étant donné que c'est quand même un soutien sur le plan matériel, mais aussi sur le plan relationnel entre les détenus eux-mêmes en prison, bon, la personne va continuer à montrer à l'extérieur qu'elle continue à pratiquer sa foi, mais en réalité, non, il n'y a plus rien.
En effet, souvent la religion est un moyen fort de socialisation et d'occupation pour les détenus, notamment grâce aux cultes qui ont lieu une à deux fois par semaine selon l'établissement pénitentiaire. Michel Thibault a son explication sur ce phénomène social.
La vie carcérale, qui est une vie d'enfermement, qui donne peu de contacts, à partir du moment où il y a une offre d'abord de contact et puis éventuellement de prise en charge spirituelle, de réflexion, de visite, un peu de socialisation, c'est toujours bienvenu. Maintenant, je ne sais pas, mais si je suis un peu caustique, je dirais qu'un club de Monopoly pourrait à certains moments faire l'affaire.
La tendance est confirmée par Blaise et Claude, le surveillant.
Il y a des gens qui vont pour retrouver les autres.
Qui ne sont pas spécialement religieux.
Qui ne sont pas spécialement religieux. Premièrement, ils vont parce qu'il faut un temps libre. C'est un temps libre qu'on vous donne. Et les gens, ils se posent déjà des questions dans la cellule. T'es où ? Quelle religion ? Mais c'est nous. Donc, tu y vas par rapport aux autres, en fait. S'ils sont quatre à aller chez les catholiques, tu y vas. Vous y allez, mais là-bas, vous allez. C'est vraiment la prière. C'est vraiment la lecture biblique et tout ça là. Alors, t'en fais ce que tu veux. Hein. Si tu veux être concentré, t'es concentré. Si tu veux parler, ben, tu parles. On va pas te chasser, rien. C'est un moment où vous êtes là et jusqu'à la fin, quoi.
Partons du principe qu'un détenu, c'est une personne qui reste enfermée pendant longtemps dans une cellule. Et c'est une personne qui n'a pas de contact avec les autres. Et quand il y a un culte qui est organisé, il va au culte, il va se retrouver avec d'autres personnes, de sa foi ou pas, peu importe. Et là, s'il y a des informations quelconques à diffuser ou des messages à faire passer, par exemple, un cousin qui se retrouve dans une autre aile de la prison où ils ne savent pas se rencontrer, où s'est passé le message, eh bien, c'est l'occasion de transmettre à son cousin ses salutations.
Outre l'aspect purement fraternel, Claude y voit aussi une stratégie de défense.
Quand la personne rentre en prison, elle cherche aussi une protection, étant donné qu'elle se retrouve dans un milieu hostile. Elle doit trouver une protection. Alors, elle doit se tourner du côté d'une certaine foi, par exemple l'islam, le christianisme, peu importe, le protestantisme, pour avoir une certaine relation avec d'autres personnes qui pourront éventuellement lui servir de bouclier en cas d'agression, quoi.
Vincent Spronck est directeur à la maison d'arrêt de Forêt. Pour lui, cet état des lieux n'est pas négatif.
Identitaire est toujours connoté négativement. La religion en prison permet à ces gars qui sont un peu perdus dans l'anonymat de la prison de trouver des groupes chaleureux où ils peuvent exister de manière positive et qui sont importants pour l'aumônier, pour les autres de cette religion-là. Ça, c'est de l'identité dans ce que ça met. On est tous en recherche de ça, d'exister pour d'autres, d'avoir un regard bienveillant qui nous couvre, qui nous protège. Ce phénomène existe en prison, et sans doute renforcé par la prison, où comme les conditions sont extrêmement difficiles, violentes, méprisantes, ben, on a envie de compenser cela, mais c'est une quête humaine tout à fait normale chez tout le monde.
Justement, dans cet univers impitoyable qu'est la prison, l'aumônier occupe souvent une place importante auprès des croyants. En Belgique, 6 cultes sont reconnus officiellement, le culte catholique, musulman, protestant, israélite, orthodoxe et anglican. Pour ces imams, pasteurs, abbés ou encore rabbins, œuvrer en prison est une véritable vocation. Tous définissent leur rôle différemment, mais avec, pour intérêt commun, le bien-être des détenus. L'imam Fatala.
D'abord, il attend l'espoir des mots qui va calmer, adoucir son séjour dans le monde carcéral. Il attend l'orientation vers le droit chemin. Il attend la connaissance religieuse et spirituelle. Et c'est ça notre rôle. Notre boulot, c'est donner l'espoir et ouvrir un monde immense devant quelqu'un qui est enfermé dans un monde fermé.
Plus porté sur le lien social que sur l'aspect spirituel, l'aumônerie catholique apporte un autre regard.
Je pense que la véritable demande, souvent, c'est d'avoir quelqu'un avec qui parler. Donc, ils disent, quand on va au prio, on parle des faits pour lesquels on est là, de ce qu'on risque comme peine, et c'est toujours la même chose. Je crois que c'est ce que le judiciaire, le ceci, le cela. Et il y a peu de lieux où je peux, justement, parler un peu de moi, etc. La deuxième chose, c'est qu'ils savent aussi, par la loi et les règlements, mais aussi de par leur expérience, que les aumôniers sont tenus au secret professionnel absolu. Et donc, tout ce qu'on va se dire entre nous restera entre nous. Et donc, parfois, on a des confidences bien au-delà de ce qui est dans le dossier pénal, par exemple.
Harold de Nesbitt met en avant la disponibilité des aumôniers.
Parfois, on a des détenus qui disent qu'ils vont faire des bêtises, une bêtise. Donc, dans le langage carcéral, ça veut dire qu'ils vont se faire du mal. Les psychologues, on pourrait dire, mais pourquoi est-ce qu'ils ne prennent pas rendez-vous avec un psychologue ? Très difficile d'avoir un rendez-vous avec un psychologue parce que les psychologues sont surchargés. Et là, si je comprends bien, les psychologues sont surtout là pour l'évaluation du risque et pas vraiment pour aider les détenus avec leurs problèmes de tous les jours.
L'imam Rarib, lui aussi, reçoit des demandes multiples.
Se faire pardonner. Donc ça revient souvent dans leur discours, le fait qu'ils ont fait une erreur, une faute, ça ne doit pas se faire. J'ai fait un peu la honte à ma famille. Donc des choses comme ça, et pour se dédouaner, entre guillemets, ou pour se racheter, donc ils reviennent à Dieu, ils reviennent à la religion, ils reviennent à la prière, et ça les apaise, ça les rassure, ça les... voilà. Il y en a d'autres qui viennent vraiment pour des questions, j'allais dire, très techniques par rapport à l'orientation de la Mecque, des questions comme ça, comment faire les ablutions, j'ai fait ceci dans la prière, est-ce que valable ou pas, des choses assez. Il y en a d'autres personnes qui viennent alors pour vraiment une question de sens. Donc ils font, j'allais dire, une pause, une parenthèse dans leur vie pour penser à pourquoi nous sommes ici, pas simplement en prison, mais pourquoi nous sommes ici sur cette terre, qu'est-ce qui m'est arrivé, qu'est-ce qui va arriver à mes enfants, ma famille plus tard, etc. Donc il y a ce questionnement de sens qu'ils font appel un conseil islamique, entre autres. Et évidemment, ceux qui parlent plus de sens, de la philosophie de la vie, etc., ce sont des personnes qui ont une certaine instruction, j'allais dire comme ça, donc philosophique en tout cas.
Pourtant, selon le pasteur Nesbitt, la relation avec les aumôniers peut évoluer au fur et à mesure de la détention.
Quand je suis arrivé, il y avait certaines personnes qui fréquentaient le culte. Et puis, je suis retourné évidemment les voir, j'ai essayé de prendre relève, mais certains ont décroché, on peut dire, entre guillemets. Ce qui veut dire que, bon, il y avait des atomes crochus entre le détenu, l'ancien aumônier, qui était différent de moi, évidemment. Donc voilà, certes parfois pour des raisons, certaines raisons personnelles, et donc ça je peux comprendre. La deuxième situation, c'est ce que j'ai remarqué, c'est que quand un détenu sort de sa situation de crise, c'est peut-être assez naturel. Bon, soit il était prévenu et il est devenu condamné, un petit peu moins ça, mais je veux dire une crise un peu plus ponctuelle au niveau d'un duo qui ne convient pas ou au niveau de je ne sais pas quel problème familial. Une fois que la crise est passée, eh bien, le détenu... Voilà, il a trouvé la réponse à son problème et il est moins accroché à l'aumônerie. Parfois, ça arrive aussi au niveau des ailes. L'aile ici, un Nivelles qui est convoité par la plupart, c'est l'aile 1000 où il y a plus de liberté, donc c'est une aile un peu plus ouverte. Et j'ai remarqué que des personnes qui peuvent s'intéresser plus ou moins à une visite tous les mois environ ou quelque chose, une fois qu'ils ont atteint leur but d'être là sur l'aile 1000, eh bien, ils font comprendre, mais bien, ça va maintenant. Donc,
pour Xavier Lambrecht, les aumôniers n'ont absolument pas vocation à faire du prosélytisme.
De notre côté, alors du côté des aumôniers, je dois avouer que l'intérêt n'est pas de faire, comment vais-je dire, donc du recrutement religieux ou de la publicité religieuse. Je crois que la raison d'être d'une aumônerie catholique en prison, c'est d'aider la personne à sortir, si possible grandie, de cette expérience qui est négative et qui est un mauvais passage dans sa vie.
Pourtant, d'après l'aumônier protestant, ces idéaux ne sont pas respectés par tous.
J'ai entendu, parce que je vais dans d'autres prisons, que parfois il y a un aumônier ou un conseiller notamment qui verrait sa mission autrement que nous. Je l'ai entendu de la bouche de l'aumônier catholique en chef qui disait qu'un aumônier, un conseiller musulman, il voyait sa mission, il regardait la liste et s'il voyait un nom à consonance musulmane pour lui, eh bien il irait le voir pour voir s'il était bien musulman et s'il il était, eh bien, il l'encouragerait dans sa foi musulmane et s'il n'était pas, il l'encouragerait à le devenir.
Les faits de prosélytisme de la part de certains aumôniers sont souvent interceptés. Mais d'une manière générale, la présence de ces hommes de Dieu est appréciée. Marc Dizier, directeur de la prison d'Andenne.
De tout temps, les aumôniers des différents cultes ont toujours été considérés comme membres à part entière des établissements, du personnel des établissements pénitentiaires. Et donc voilà, il y a une tradition de leur présence dans les établissements et ils font partie de, je vais dire, des meubles ou du paysage.
En effet, en
c'est
Belgique, l'aumônerie
a
toujours été étroitement liée au milieu carcéral, comme l'explique Gérard de Coninck.
Et on a même pensé au XIXe siècle créer un ordre religieux qui s'occuperait des détenus en prison, avec des religieuses pour les femmes. Quand on a fermé le Saint-Léonard lors des émeutes en 1979, il reste encore quelques religieuses qui sont venues, qui sont montées à l'antin avec les détenus. Donc mais la religion, au départ, ça devait normalement permettre de penser sa vie, de devenir plus moral, plus sain, entre guillemets. Dans certains pays, d'ailleurs, on disait qu'au XIXe siècle, il fallait, pour redresser les âmes, il fallait des croyants, il fallait des surveillants qui soient croyants. On n'est plus là.
Mais c'est surtout chez les détenus religieux que l'aumônier devient un pilier. Pour Michael, Harold Nesbitt, Al, comme il l'appelle, a été d'une grande aide dans son cheminement spirituel.
Moi, j'ai demandé l'aide à Al au début. Pourquoi ? Pour demander, quand je me suis repenti, pour demander pardon, parce que j'arrivais pas tout seul. Donc avec l'aumônier, c'est plus facile de trouver les mots et de le laisser d'abord parler et puis de suivre après. Donc voilà, l'aumônier, normalement, il doit être là pour t'aider à retrouver tout ça, en fait, tout ce que t'as perdu, en fait.
Mais pour d'autres détenus comme Tchèque, les attentes vis-à-vis de l'aumônerie n'ont pas toujours été comblées.
J'ai des oncles qui sont imams. Quand j'avais l'imam à la prison, son discours n'était pas profond et je n'arrivais pas à me reconnaître dedans. Donc moi, j'attends plus de l'imam un soutien, faire ce travail que le prophète et ses compagnons faisaient, c'est-à-dire de rassembler les gens, de les conscientiser, de les rappeler la notion du bien et du mal. Et que voilà, un homme doit prendre ses responsabilités. Et donc, voilà, j'attendais.
pour le directeur de la prison de Forêt, les religieux ne peuvent pas être blâmés. En effet, il y a en Belgique 17 imams pour une population carcérale totale qui avoisinerait les 5000 détenus musulmans, soit près d'un détenu sur deux de la population carcérale totale.
Il y a une bonne volonté générale de la part des aumôniers pour être présents dans la mesure de leurs possibilités. Il faut citer l'exemple de l'imam qui est seul pour la prison de Forêt. Déjà, ce n'est pas possible de s'occuper de la prison de Forêt seul. Mais en plus, il doit aller à Pèves, donc près de Liège, il doit aller à Jamiou, il doit aller en Vdène, je crois. Donc, c'est pas possible de. C'est pas un manque de bonne volonté individuelle, mais de manière organisationnelle, les choses ne sont pas en place. L'exécutif des musulmans manque d'imams, ne sait pas les payer de manière convenable non plus. Les frais de déplacement ne sont pas payés, c'est hallucinant.
D'autres manques se font y sentir pour Tchèque.
Des ouvrages, des tapis, des chapelets. Bon, pour faciliter le fidèle quand il rentre dans cet environnement-là, de pouvoir mieux adorer son Seigneur. Et là, malheureusement, il y a encore du travail à faire à ce niveau-là. Donc, la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils prient avec leur essuie. Ils prient avec leur essuie à défaut de ne pas avoir d'argent pour acheter les tapis. Donc, voilà. Pour moi, il devrait plus avoir encore de collectif. Pas que l'imam, mais il doit y avoir des gens qui puissent seconder l'imam. Je veux dire, un individu ne peut pas être disponible pour 850 personnes ou 800 détenus.
Michael, le protestant, partage cette opinion. Il dénonce les dysfonctionnements.
Le manque de possibilités, par exemple, de voir un aumônier protestant. Ou... Il y a tellement en prison des imprévus, manque de personnel. Donc ça entraîne pas de préau, pas de sortie, pas de mouvement dans les couloirs. Donc t'as pas culte. Ils peuvent juste se déplacer en cellule, mais il faut déjà que les grilles elles s'ouvrent. Et si, et là. Donc en fait, c'est ça qu'il faudrait changer pour que chaque détenu puisse avoir plus de visites. En fait. Parce que même les musulmans qui sont beaucoup plus, il y a qu'un imam.
Et qu'est-ce qu'on pourrait améliorer?
Il devrait en fait faire que quand c'est les moments de culte, qu'il n'y ait aucune activité qui se prépare, rien du tout. Ils mettent le culte en même temps que le préau, par exemple, en prison. Et ce qui ne va pas, c'est que les gens, il fait bon, qu'est-ce que tu fais? Tu sors.
Ce genre de déboires disconviennent pourtant à la loi de principe du 12 janvier 2005 sur le statut interne des détenus. Celle-ci est censée garantir l'exercice des cultes dans les meilleures conditions possibles dans les prisons. Mais Vincent Spronck se défend.
Est-ce que tous les dispositifs sont mis en place pour que les religions soient pratiquées au mieux?
La loi le demande. De là à dire que cela c'est fait, que c'est fait, tout le monde essaie de faire son possible. Dire que ça marche, ça c'est mentir. Mais il n'est pas sûr que ce soit la faute, il faut parler de faute, de l'administration pénitentiaire. C'est vrai, c'est un manque de moyens. À qui est-ce que ça appartient? Donc, au niveau des textes, la loi ne peut pas être mieux foutue, à mon avis.
Les aumôniers peuvent rendre visite aux détenus dans leurs cellules ou les voir dans une salle commune dans certains établissements pénitentiaires comme la prison de Forêt. La demande se fait par écrit par le détenu. À Forêt, il y a deux cultes catholiques et protestants par semaine et un culte musulman, la prière musulmane n'ayant lieu que le vendredi. Il n'y a qu'un local pour tous les cultes. Celui-ci a une capacité moyenne de 25 détenus. Là-bas, plusieurs cultures se côtoient. Une richesse pour l'abbé Lambrecht.
Quand on va se retrouver lors d'une célébration, quelque chose auquel on doit absolument tenir compte, c'est la diversité culturelle qu'on a entre nous, de par les origines. Et en même temps, une diversité culturelle qui se connaît peu. Je veux dire, les jeunes n'ont pas nécessairement toujours questionné leur propre culture, donc ont du mal à comparer leur culture par rapport à une autre culture. C'est une difficulté, mais c'est à la fois aussi une richesse, parce que ça a quelque chose de beau et d'intéressant quand on parvient à le mettre en évidence.
Mais ces différences culturelles peuvent aussi constituer un obstacle.
J'essaie de maintenir le culte assez ouvert, pour que tout le monde puisse s'y trouver. Parfois, cela convient à certains, pas aux autres. J'ai eu un autre, juste dernièrement, qui venait d'une église gitane et qui était habitué à une certaine forme, un certain volume notamment, un certain enthousiasme ou ardeur au niveau des chants et de la prédication. Et donc, lui, il ne trouvait pas son compte dans notre culte. Mais bon, comme je dis, il faut essayer de faire, trouver le juste milieu qui plairait à tout le monde.
Outre les différences culturelles, d'autres problèmes peuvent subvenir.
Dans notre religion, on va insister sur l'aspect communautaire, hein, donc la communauté chrétienne. Et c'est parfois difficile de faire communauté, de se dire frère de celui que j'ai besoin de noircir justement pour m'en séparer et un petit peu me valoriser moi. Donc on sait bien à l'heure actuelle que ce qui est très mal vu en prison, c'est l'effet de pédophilie ou les viols sur les femmes, etc. Parce que ça, c'est pire que ce que moi j'ai fait. À l'extérieur, on a bien souvent des réussites qui permettent de nous valoriser. En prison, on est toujours rabaissé.
Si les moments de culte peuvent entraîner des difficultés mineures, la pluralité religieuse entre différentes confessions fonctionne généralement bien.
J'ai eu un détenu qui n'était pas musulman, qui était roumain, qui ne parlait pas français. Mais vous savez, le langage de Dieu, il est universel. C'est-à-dire on le voit, on le ressent par le comportement. Et moi, quand j'allais vers lui ou bien je le faisais savoir que je devais prier et tout ça, il observait le silence, il faisait pas d'histoire. Parce que bon, dans ces lieux-là, on est tous dans le même bateau. On se nourrit d'espoir. Et lui, il comprenait ça. Et donc, ça posait pas de problème. Lui aussi, il priait selon son rituel à lui. Et je respectais.
Pour Claude, le surveillant, le respect des autres religions fait partie de la sous-culture carcérale.
Parmi les codes de conduite, c'est parmi leurs règles au sein de la prison. Ils ne s'attaquent pas aux autres parce qu'ils sont chrétiens ou parce qu'ils sont musulmans. Ça sera pour autre chose, mais question religion, ça, c'est des côtés, ils se respectent mutuellement. À l'opposé de ce qu'on voit dans la vie active.
Et si ce respect mutuel est plutôt bien ancré, il n'en va pas forcément de même pour les individualités.
Est-ce que la religion leur permet d'être plus serein?
Comme je dis, la religion leur sert de béquille, oui. Très souvent, quand quelqu'un pratique sa religion réellement, ça l'aide à voir les choses d'une autre manière, à se discipliner, à observer le règlement au sein de la prison. Mais il ne faut pas oublier que les détenus ont leurs propres règles. Ce qui fait que la foi en elle-même ne suffit pas à la personne de rester sereine, non.
Quel genre de règles?
Ben, c'est des règles propres aux détenus. Ça, c'est tellement complexe. Il y a le règlement de la prison, mais entre eux-mêmes, les détenus, ils ont leurs propres lois qu'il faut respecter.
Michel Thibault évoque pour sa part une fracture des détenus par rapport à la normalité.
Alors, le fait de se mettre hors la loi est déjà une position subjective par rapport au système qui fait qu'on n'est plus dedans. Et donc à ce moment-là, ils ont déjà rejeté ou compromis ou passé haut d'un certain nombre de valeurs qui sont les valeurs de la société. Et je pense que la loi, ou même à la limite la loi divine, enfin la loi naturelle, etc., sont des choses qui ne sont pas des choses qui articulent leur vie. Donc, d'une certaine façon, la religion, avec ses interdits, sa morale, etc., est déjà dépassée ou mise complètement de côté.
En effet, si beaucoup de prisonniers pratiquent une religion durant leur détention, parlons aussi d'un second dieu, la drogue. En effet, 30% de la population carcérale belge serait incarcérée pour des faits de drogue. Et en 2008, 65% d'entre eux ont déclaré avoir déjà consommé une fois durant leur détention. Une situation que dénonce Gérard de Coninck.
En prison, dès que la détenue arrive, on lui propose de la drogue. Hein. On voit tout de suite à nouveau, on le repère et on voit qu'il va mal, donc on va lui donner un peu de drogue et pour lui dire si tu veux, on en a d'autres. Enfin, tu viendras nous trouver, on va t'aider. Et c'est comme ça qu'il tombe dedans, et avec parfois des engagements d'argent phénoménaux, et des détenus qui se suicident. On a eu à Lantin, par exemple, un détenu qui était au cachot parce qu'il ne parvenait plus à payer tout ce qu'il devait. Il demandait à sa famille, etc. Mais il avait, je crois que c'était à peu près 100 000 francs belges, c'était 2500, mais c'est beaucoup pour un détenu. Je me souviens toujours de lui, et il était dans le cachot, même les détenus de l'aile venaient taper sur la porte et le menacer, etc. Et il s'est pendu. Il s'est pendu dans le cachot. Et donc, vous voyez que le profil, c'est beaucoup de toxicomanes. Donc, je trouve qu'ils n'ont rien à faire là-dedans parce qu'on ne rapporte aucune aide, sauf qu'on alimente, on permet le trafic en prison, on permet d'enrichir certains qui n'ont jamais rien sur eux, qui n'ont jamais rien dans leur cellule. Hein. Les vrais chefs de la drogue n'ont jamais rien, c'est sur leur lieutenant. Et souvent, les détenus, même qui sortent en congé, on le sait vite quand quelqu'un va aller en congé. Et les détenus sont à peine sortis, qui sont attendus. On leur dit tu sors de la prison, il y a quelqu'un qui va t'attendre, tu vas aller à tel endroit chercher de la drogue et tu nous le ramènes.
Et ce trafic a bien souvent un arrière-goût religieux.
Il y a des gens qui adoptent une forme d'hypocrisie au sein de la prison, qui vont te parler de Dieu, qui vont te parler de ci, alors que ce n'est pas ça leur réelle intention. C'est pouvoir t'amadouer, te manipuler. Par exemple, il y a des gens qui se disent musulmans, ils prennent des jeunes qui ne connaissent pas bien l'islam, qui leur demandent d'aller chercher du shit au parloir chez d'autres personnes pour eux afin qu'ils puissent venir vendre, ou bien qu'ils utilisent des jeunes pour qu'ils aillent voir un tel maton lorsqu'il va sortir et lorsqu'il va rentrer, qu'il apporte certains produits et tout ça. Il y a un réel business au sein de la prison. D'autres qui utilisent la religion comme fonds de commerce pour arriver à leur fin. Et pour moi, ça, c'est déplorable, c'est lamentable.
Mais pour Claude, certains détenus n'ont déjà plus le choix.
Mais il y a aussi des personnes qui sont endettées. Parce que bon, très souvent, on voit des jeunes gens qui rentrent en prison pour des trafics de tout genre. Mais ce n'est pas parce que la personne rentre en prison qu'elle n'est plus redevable à son fournisseur. Il reste toujours redevable. Même quand il aura purgé sa peine, à la sortie, il doit toujours rembourser. Et c'est déjà une grosse dette parce qu'il y a les intérêts qui vont avec. Alors très souvent, des fondamentalistes utilisent cet aspect de choses. Eux, ils vont carrément rembourser la dette en utilisant tous les moyens qui leur sont propres. Du coup, cette personne, une fois lavée de sa dette, mais elle reste redevable par rapport à ce qu'ils ont tiré de cette situation. Et pour rembourser, on lui propose quoi ? D'aller combattre pour le djihad, par exemple.
La radicalisation religieuse en milieu carcéral est au cœur du débat. Le récent cas de Mehdi Memmouche a fait couler beaucoup d'encre. Mais qu'en pensent les acteurs de terrain ?
Quand je suis en recherche d'identité, je vais prendre tout ce qui va m'aider à me situer. Et bien souvent, les mouvements radicaux, quelle que soit la religion, dans l'islam, mais ça existe aussi dans la religion catholique, c'est des mouvements faciles à comprendre. On simplifie la religion, en quelques points, on vous explique ce que c'est être chrétien, ce que c'est être musulman, ce que c'est... Et donc, c'est donner une réponse facile sur une question qui était gigantesque. Et je pense que pour celui qui est vraiment très mal, c'est rassurant de prendre cette réponse facile.
Du côté des directions de prison, c'est un faux problème. Vincent Spronck.
Le phénomène du radicalisme en prison est avant tout un phénomène politique et médiatique. Hein. Moi, en prison, je ne l'ai jamais vu. À Forêt, où je travaille maintenant depuis 3 ans et demi, à Nivelles, 2 ans et demi, à Tournai, 9 ans, je n'ai jamais rien vu de tel. Ça peut arriver dans quelques prisons, mais ça reste tout à fait exceptionnel et c'est très vite repéré et très vite recadré. Et donc, c'est vraiment une construction médiatico-politique lamentable. Cette affaire-là, ça n'existe pas. Moi, je ne l'ai quasiment jamais vue. Ça, c'est un. Au niveau des prières, personne n'a besoin de l'autorisation de quelqu'un pour prier. Et donc, il y a parfois des appels à la prière par la fenêtre. Et là, on demande que ça n'ait pas lieu par respect pour l'ordre, que ça ne trouble pas le calme du quartier, le calme des autres détenus. Mais c'est pas parce que il appelle à la prière qu'on réagit, c'est parce que ça fait du bruit. Comme un autre détenu qui gueulerait par sa fenêtre pour autre chose, on intervient aussi. Donc le problème n'est pas de prier, le problème est de faire du bruit.
Même avis pour Marc Dizier.
Ça, c'est vraiment la question qui est à la mode ces derniers mois. Moi, je prétends, au risque d'être excessif, qu'il n'y a pas de phénomène de radicalisation dans les prisons. En tout cas, pas spécifiquement lié à l'islam. Il y a de la radicalisation dans les prisons parce que quand on est enfermé dans des conditions telles que celles qui sont celles de la détention en Belgique, où on est loin d'être dans des hôtels 3 étoiles, contrairement à ce que certains ont envie de dire, il y a une radicalisation du comportement. Et ça peut être la consommation de drogue, ça peut être se rapprocher d'une philosophie ou d'une religion, ça peut être développer son agressivité, quel qu'en soit le mode d'expression, ça peut être par écrit, ça peut être par les coups. Maintenant, il faut bien reconnaître qu'il y a aussi dans les établissements pénitentiaires, et ici en particulier, des gens qui ont subi des condamnations liées à des actes de terrorisme ou de mise en place d'actions violentes que les juges ont mis en relation avec la religion musulmane. Bon, ces gens existent. Il y en a quelques-uns qui tentent de recruter autour d'eux des petites mains, mais je pense que c'est un phénomène marginal.
Lorsque ces phénomènes marginaux se produisent, les aumôniers sont les premières personnes qui y sont confrontées. L'imam Rarib.
Moi, j'ai déjà dit que c'est une mission de conseil musulman de combattre, c'est le terme, l'islamisme en prison. Ça veut dire que chaque fois que je détecte un problème chez l'un ou l'autre prisonnier, je discute avec lui, on fait des discussions, des débats pour lui faire comprendre que ce n'est pas le chemin idéal, quoi qu'il en pense, parce que parfois, problème de radicalisme, d'islamisme, etc., ça vient souvent d'une mauvaise interprétation du texte. Et notre travail comme conseiller dans les prisons, c'est justement donner la bonne interprétation, en tout cas une bonne interprétation du texte.
Pour l'imam Fatallah, l'état des lieux est différent.
On parle souvent de l'islam radical, la radicalisation de l'islam en prison. Qu'est-ce que vous avez à dire, vous, en tant qu'aumônier ici à Bruxelles ?
Maintenant, vous me mettez dans l'embarras. D'après mon expérience, il n'y a pas de radicalisme dans les prisons. Parce que, pour être radical, je dis, il faut être quelqu'un de connaissance. Et dans mes différentes discussions avec les détenus que j'ai rencontrés, au niveau de la matière religieuse, sont vides.
Mais est-ce qu'il y en a qui rentrent, par exemple, qui connaissent beaucoup et qui prennent des fois le rôle de l'imam ici et qui entraînent d'autres personnes ?
Pour moi, j'ai travaillé ici à Jamioul, à Forêt, et j'ai travaillé à Pèves et à Marnef. J'ai jamais tombé sur quelqu'un qui a essayé de faire imam. avec moi. Parce que les Marocains et les Arabes, les musulmans en général, ils ont un respect spécial à leurs imams. Ils ont une très grande considération à leurs imams. C'est pour cela, c'est tout dans le monde carcéral. Et se permet pas, il se permet pas de prendre le relais. Parce que chez nous, c'est très, 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 très dangereux de prendre la place de l'imam. Pourquoi ? Parce que l'imam, quand il prêche la parole, soit il a des arguments solides, soit il est en train de creuser sa tombe dans l'enfer.
Le phénomène reste assez marginal donc. Cependant, dans le milieu carcéral, plusieurs ont déjà creusé leur tombe en enfer.
Moi j'ai eu Tabelsi là, à Nantes. Convenez, il était dans le bloc de sécurité, au bloc U. C'est un bloc de sécurité, il y a une dizaine de cellules. Ils sont tout à fait à part, mais c'est assez étonnant. Les préaux individuels de ce bloc fermé, grillagé, il y a très peu de lumière, mais lorsque Trabelsi était dans ce préau, il y avait le préau des détenus du régime normal qui était en dessous, et il rassemblait des gens en dessous de lui pour qu'ils venaient l'écouter.
Si ce genre de mouvement est relativement mal perçu, pour certains comme Tchèk, il y a de bons radicaux.
Ils ont un passé, je veux dire, qui fait parler d'eux. Et donc quand ils rentrent en prison, ou bien qu'on entend qu'ils sont rentrés en prison, ou bien qu'ils commencent à adorer Dieu d'une façon intense et sincère, ils suscitent la curiosité. Et donc les gens cherchent à aller vers eux pour savoir quel est ce changement-là et pourquoi. Et la personne qui était... Il avait un comportement démesuré, qui était arrogant, qui faisait du mal à tout le monde. Cette personne-là commence à parler de Dieu et de l'amour de Dieu. Bon, il y a certaines personnes, certains jeunes qui sont attirés vers eux, qui les écoutent. Alors peut-être que voilà, par le biais de ces gens-là, Dieu leur parle. Et voilà, ça touche leur cœur, alors ils s'intéressent à la religion. Mais il y a beaucoup de conversions vers l'islam en prison, c'est vrai, c'est vrai.
Ces nombreuses conversions à l'islam ne sont pas réellement quantifiables. Elles sont parfois le fruit d'une véritable conviction, mais dans certains cas, elles sont le résultat de comportements prosélytes de co-détenus comme le confie Blaise.
C'est plus dans l'islam. C'est dans l'islam que les gens ils profitent du fait que vous êtes incarcéré, ils viennent vous baratiner pour vous amener à pratiquer l'islam hardcore dans le sens de l'injustice de la vie et tout ça, vengeance, tu vois. Dans les préaux, ouais, mon frère, voilà, viens, on va prier ensemble, des trucs comme ça. Mais moi, j'ai vraiment pas vu ça chez les catholiques à l'église. C'est dire, ouais, venez, on va se mettre ensemble, on va prier. Non. C'était quand ils se retrouvaient au culte, vous avez votre moment avec Dieu, et puis quand c'est fini, chacun s'occupe de sa vie dans sa cellule. Voilà, c'était ça. Alors, musulmans, ils allaient au-delà de ça.
Mais pour Claude, le phénomène n'est pas propre aux musulmans.
Bon, il y a aussi les bandes urbaines, qui ont tendance à adhérer à la foi protestante, le réveil spirituel. Eux aussi, ils ont leur méthode d'imposer leur foi au sein de la prison et de chercher au maximum à ramener vers leur côté d'autres détenus. Mais en réalité, la partie cachée de l'iceberg, c'est quoi ? C'est incorporer le maximum de gens au sein de leur bande, c'est tout.
Cette stratégie de force est soulignée par l'aumônier catholique.
Quand je suis dans un groupe comme ça un peu radical, le lien entre nous est beaucoup plus fort. Par le fait que nous sommes un petit groupe contre les autres qui sont entre guillemets mauvais, puisque ne partagent pas nos convictions ou ne les partagent pas bien, quoi, hein, même si c'est un catholique mais qui ne le vit pas comme moi. Je veux dire, lui, c'est pas un vrai catholique, c'est moi le vrai. Ce petit groupe, ce petit renforcement devient une force pour passer à travers la prison, pour survivre en prison.
Comme nous l'avons vu, différentes motivations plus ou moins douteuses peuvent pousser les détenus à pratiquer davantage une religion. Mais qu'en est-il du sentiment religieux compris comme une adhésion spirituelle à une foi et non à un système ? Nous avons posé la difficile question de la sincérité du sentiment religieux aux différents aumôniers. Xavier Lambrecht se dit incapable de juger de la viabilité du questionnement religieux.
La parenthèse de vie qu'on va faire en prison, c'est un mauvais souvenir, un mauvais passage de la vie. Et bien souvent, quand on sort de prison, on a envie de tourner la page. Donc, par exemple, beaucoup de détenus me disent « Quand je vais sortir, on reste en contact, je t'écrirai. » Je dis « Oui, pas de problème, tu m'écris, je te réponds ou tu téléphones. » Mais beaucoup moins le font. Même si à l'intérieur de la prison, on avait une bonne relation avec l'aumônier, ben, c'est quand même l'aumônier de la prison. Donc, en tournant la page, on tourne la sienne aussi. Et donc, bien souvent, je ne sais pas non plus quelle est la suite du questionnement ou de l'évolution de la personne.
Le constat d'Aaron Nesbitt est plutôt pessimiste en termes de conversion. La conversion est le terme utilisé pour parler de la véritable adhésion à Jésus dans le protestantisme.
Les gens qui viennent au culte, c'est un peu comme à l'extérieur, peuvent venir pour différentes raisons. Un moment de calme, ils apprécient l'ambiance. Et voilà, on ne sait pas toujours. Il y a eu des personnes qui ont pleuré sur mon épaule. Donc voilà, je crois que parfois on fait du bien. Mais des conversions proprement dites, peut-être je suis un petit peu plus strict à cet égard. Là, juste comme ça, je ne peux pas me remémorer une seule instance.
Les deux conseillers islamiques sont aussi perplexes. Pour eux, tout est une question de suivi. L'imam Rarib.
Et qu'en est-il de l'après-prison en général? Est-ce que les personnes conservent leur foi ou vous remarquez que souvent, elles la perdent un petit peu à la sortie de la prison?
Là aussi, c'est lié avec la raison avec laquelle nous sommes retournés à la religion à l'intérieur de la prison. Si les personnes étaient sincères, entre guillemets, parce que la sincérité, c'est une affaire de personnel, on ne peut pas le savoir, dans leur retour à la religion, donc ça veut dire que c'est pas simplement les circonstances qui ont fait que... Mais il y a vraiment un travail en amont, donc un travail spirituel, un travail de réflexion, de recherche de sens. Là, ça continue. Si c'est simplement pour imiter les autres, ou bien pour faire comme les autres, ou bien ils trouvent un co-détenu qui lui fait la prière donc par honte ou quelque chose comme ça, il fait comme lui. Là, après la prison, ça s'estompe en général. Mais il m'est arrivé de revoir des anciens prisonniers dans la mosquée. Mais souvent, ce sont des jeunes, donc c'est parfois par coup de tête ou bien par un rêve spirituel, quelque chose comme ça. Ils reviennent à la religion, mais s'il n'y a pas quelque chose de construit après, ça ne tient pas.
C'est peu des gens comme ça, par exemple, qui, après, une fois ils sont libérés, qui se maintiennent le droit chemin. C'est peu, hein. Parce que, on doit pas oublier que, qu'on a été enfermés, nous étions enfermés dans un monde limité. Il y a peu d'influence. Cependant qu'on est libre, on a du choix. On ne doit pas oublier que les copains, les amis, les camarades, les collègues de métier, si je me permets de dire, de le nommer métier, les collègues du métier, eux aussi, ils exercent pas mal de pression sur se libérer parce que, écoute, on a commencé ensemble, soit on arrête ensemble, soit... Il y a pas mal de trucs qui poussent le libéré à revenir sur l'humain. Ainsi que le rejet social. La société, en général, elle rejette quelqu'un qui a subi l'expérience de l'incarcération, le monde du crime. Je cherche pas à donner raison à ces gens-là, mais je culpabilise la société en premier lieu. Parce que la société n'a pas fait le nécessaire pour réintégrer, se libérer.
En ce sens, Gérard de Coninck appuie l'imam.
La sanction de prison, malgré tous les discours que l'on tient, est une peine uniquement d'exclusion. On dit que c'est une peine de réinsertion pour envie de la réinsertion, etc. Mais c'est du cinéma. Il n'y a pas de véritable réinsertion. C'est un mythe. Pour moi, c'est un mythe, la réinsertion. Et donc, on essaie toujours de faire croire qu'en prison, on prépare la sortie. C'est pas vrai. Si c'était vrai, on mettrait d'abord les moyens pour mettre en œuvre le plan de détention. La récidive, officiellement, la récidive, c'est 44%, officiellement, d'après les études.
L'imam Fatala ne perd cependant pas espoir.
Moi, je ne peux pas être désespéré parce que les paroles de la bonne parole, la parole de Dieu. C'est pas une parole d'un actrice ou d'un star. Malgré l'âge, on parle à quelqu'un en 2007. Notre parole peut pousser dans son cœur. Elle peut fleurir dans sa vie après 10 ans. C'est comme quelqu'un qui a jeté du blé sur l'asphalte. Non. Un aumônier, que ce soit chrétien ou musulman ou juif, quand elle parle, la bonne parole. Il est sûr que ces paroles, ils vont avoir des bons résultats, tôt ou tard, parce que ce sont des paroles qui touchent en premier lieu le cœur. Même les plus grands criminels, il a toujours un côté lumineux dans son cœur.
Les acteurs du religieux en prison ne peuvent pas se prononcer sur la véracité du retour en milieu carcéral. Mais il y a une autre constante qui se dégage, le bagage culturel et religieux de ces criminels repentis. Ceux-ci ont pour la plupart tous un arrière-plan religieux. Si les athées peuvent se remettre en question, très peu y mêleront le divin. Les aumôniers témoignent.
La majorité des détenus ne sont pas des pratiquants en général. C'est vrai, ils ont des principes de religion, ils ont des convictions de religion selon leur éducation, selon leur milieu. Mais ça n'arrive pas à la majorité à la pratique.
Je crois que les personnes qui s'inscrivent au culte sont des personnes qui ont un lien quelque part déjà avec, je dirais, la religion protestante. Occasionnellement, j'ai des personnes qui s'inscrivent par réaction à une autre religion qu'ils ne veulent plus fréquenter.
Ce que je vais quand même remarquer, c'est que pour une majorité, c'est quand même la foi, je vais dire, plus populaire. Ce ne sont pas des grands théologiens. Donc voilà, c'est la foi un peu de monsieur et madame tout le monde. Parfois même, ce sont au départ des croyances qui ne font pas du tout l'essentiel de la foi catholique, mais on se souvient.
Ce phénomène est d'ailleurs confirmé par le professeur Jaspard.
Et vous disiez que pour qu'il y ait justement développement d'un sentiment religieux, il faudrait qu'à la base, il y ait une éducation religieuse. Donc pour les personnes qui n'en ont pas eu, elles n'ont pas beaucoup de chance dans ce cas de développer une foi en prison ?
Ça ne va pas en être comme ça tout seul, non. Ceux chez qui il n'y a jamais rien eu, il n'y a pas un sentiment religieux qui viendra. Il y aura des questions sur le sens de la vie, ça oui. Un sentiment religieux par rapport à Dieu, par rapport à Jésus-Christ, ben, il faut avoir appris quelque chose sur Dieu ou sur Jésus-Christ avant.
Aujourd'hui, Blaise, Michael et Tchèque sont de nouveau clean, comme on dit. Ils luttent tous s'appuyant sur leur Dieu pour ne pas retomber. Tous rêvent maintenant du paradis, pour ne plus jamais retourner en enfer.
Nobody knows the trouble I've seen.
Non, abandonner la foi, non, parce que ça fait déjà depuis que je suis sorti deux, trois fois ou trois, quatre fois que j'ai revu donc le pasteur que je voyais avant. Et toujours qu'il me dit, viens à l'église. Mais c'est, tu voudrais bien y aller. Mais quand tu rentres comme ça, moi, comme du travail ou quoi, ben voilà, t'as pas le temps ou quoi. Quand tu sors en fait au début, quand tu sors de prison au début, tu perds pas la foi, mais t'as pas trop le temps. Mais c'est pas pour ça que tu oublies en fait ce que t'as appris.
J'ai évolué dans ma croyance. Je crois, donc j'ai évolué dans ma croyance. Je crois à certaines choses et certaines choses j'ai mis de côté, mais tout ça fait partie de la Bible, mais j'ai mes priorités, voilà quoi. Moi je sais que Dieu est là, c'est tout, mais bon, des fois on est là comme un enfant qui crie sur, qui crie sur son père, mais comme un enfant qui parle avec son père, qui s'embrouille avec son père.
Comme le prophète nous disait et nous le rappelait, quand une personne meurt, il y a trois choses qui l'accompagnent. Les compagnons lui ont demandé c'était quoi. Il les a fait savoir que la famille, souvent, accompagne le défunt. Le matériel et ses actions. Et finalement, il y a deux choses qui restent et une chose qui est enterrée avec le mort, c'est ses actions. Et c'est en fonction de ça qu'on le jugera. Et le matériel et la famille repartent parce que voilà, c'est fait pour ce monde en fait. Et donc pour moi, les actions d'un homme, il est très important. Mais de là à dire maintenant, est-ce que je suis meilleur ? J'essaie parce que la société aujourd'hui, elle n'est pas évidente. On juge beaucoup les gens sur ce qu'ils ont, sur le paraître et tout ça. Donc parfois, on se prête au jeu. Parfois, on essaye de se détacher de ça. Moi, c'est ça que je recherche aujourd'hui. J'essaie d'avoir cet équilibre déjà, de construire, mais de façon digne. Ça m'a beaucoup aidé, en tout cas, le fait que j'ai été là-bas. Mais je peux pas, j'ai pas encore fini ma vie pour savoir est-ce que, franchement, est-ce que je peux faire le bilan, est-ce que j'ai bien agi ou pas encore. Je n'en sais rien. Mais au jour le jour, j'essaie d'être en accord avec moi-même et être correct avec les gens et faire du bien autour de moi parce que il y a que ça que j'emporterai avec moi, en fait.